Donc, nous allons commencer ensemble une nouvelle série. Bernard en a parlé tout à l'heure de Romains chapitre 9 à 11 et on s'est arrêté au chapitre 8, donc de l'épître aux Romains. Donc, on va poursuivre un petit peu la pensée qu'avait Paul. Alors, on parle parfois de la Bible comme un livre du passé qui est un peu dépassé, donc sans empreinte avec la réalité d'aujourd'hui. Et bien sûr, il n'en est rien. Et le texte qu'on va lire ce matin ensemble va nous rappeler cela. Nous sommes au 21e siècle et les Juifs sont toujours là avec leur phylactère, leur rouleau de la Torah. Et ils ont retrouvé leur pays, ils font régulièrement la une des journaux, et ils ont laissé des traces profondes dans nos manuels d'histoire, hein, depuis les temps du Seigneur jusqu'à présent. Alors on va écouter ce qu'enseigne l'apôtre Paul ce matin dans les versets chapitre 9, les versets 1 à 5. Romains chapitre 5. Alors, chapitre 9, pardon. Verset 1 à 5. Je le dis en vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est béni au-dessus de tout, Dieu béni. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, on est dans le contexte de l'évangile de l'épître aux Romains. Et l'épître aux Romains, c'est Paul qui avait ce projet d'aller à Rome et qui donc prépare un petit peu sa visite, en quelque sorte. Et il écrit cela dans. Au début de Romains chapitre 1, je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est de l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Et donc c'est bien dans le cadre de l'Évangile qu'il expose que rentrent ces chapitres 9 à 11 dans la continuité de ce qu'il a écrit au chapitre 8. Les Juifs ont, comme tous les hommes, besoin du salut par la foi. C'est ce qu'il a rappelé au chapitre 2. Il fustige les Juifs qui se croient supérieurs aux autres parce qu'ils possèdent la loi, tout en la transgressant. Même si les oracles de Dieu leur ont été confiés, ils sont comme tous les autres. Sous l'Empire romain, pas seulement. Ils sont comme tous les autres sous l'empire du péché, au chapitre 3. Et la justification par la foi en Jésus-Christ est la seule porte pour le salut. Et au chapitre 4, le roi David lui-même est au bénéfice de la seule grâce de Dieu. Il revient maintenant sur ce sujet, mais ce qui est intéressant, c'est la fin du chapitre 8, où il est l'apôtre Paul emploie pour la première fois ces mots prédestination, appel, élection, des mots qu'il n'avait pas utilisés jusqu'à présent, et qu'il va, cette idée d'élection qu'il va développer dans les chapitres 9, 10, 11. On avait vu ensemble que l'apôtre Pierre, dans son épître, parlait des élus, parlait de l'élection. Et là, l'apôtre Paul Romain va nous développer tout, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots, et également nous parler de l'évangélisation. Alors, Paul aime le peuple juif. On va se rappeler que Paul était un évangéliste persécuté par ses frères israélites. Alors, peu de temps après la Pentecôte, les problèmes ont commencé avec les autorités juives. Ils voulaient se débarrasser de ce Jésus de Nazareth ce rival qui arrivait et qui empiétait largement sur leur autorité. Et ils pensaient s'en être débarrassés en le faisant crucifier à la croix. Mais voilà qu'il est revenu à la vie. Et cette nouvelle se répand partout à grande vitesse et un groupe se forme autour des apôtres, de ceux qui ont suivi et écouté l'enseignement de Jésus et dont la persécution ne va pas tarder. Donc, le jeune Saul s'engage dans la répression jusqu'au jour où il rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas, ce qui provoque à lui une conversion radicale. De persécuteur, il va devenir un défenseur zélé du christianisme, répandre la foi dans le Messie des Juifs. Il va le répandre aux non-juifs. Et cela le rend haïssable à ses contemporains. En acte 22-22, lorsqu'il est à Jérusalem et qu'il s'exprime devant la foule, celle-ci répond « Ôtez de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre ». Paul est un homme qui aime à fond. Je voudrais être moi-même maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est un amour radical qui fait écho à celui du Seigneur Jésus-Christ, son maître et son Seigneur. On connaît par cœur ce verset de Jean, chapitre 13. Chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié jusqu'à la croix, souligne l'apôtre Paul en ce qui concerne le Sauveur. Et bien sûr, l'évangile n'est pas la bonne nouvelle du sacrifice de Paul, c'est la bonne nouvelle du sacrifice du Messie. Paul n'a que la possibilité d'annoncer Yeshua à Mashiach, à Yah, à ses compatriotes, Jésus, le Messie, en les rendant jaloux des chrétiens pour que quelques-uns se convertissent. Paul aime à fond sa nation et son peuple. C'est un amour incompréhensible à vue humaine et il le souligne plusieurs fois. Je le dis en vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il veut que cette chose, cet amour incompréhensible, est bien réel en lui-même. On ne peut pas lui reprocher de ne pas aimer son peuple, d'être contre lui, loin de là, loin de moi. Cet amour est incompréhensible, mais il n'est pas surprenant. Au chapitre 5 de son épître, Paul a en effet enseigné « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et c'est ce même amour que nous avons reçu. C'est ce même amour que nous avons reçu. Un amour qui aime à fond. Alors la première raison pour aimer les Juifs, Israël est béni de Dieu. Paul fait la liste des choses qui appartiennent au peuple juif. Il parle de l'adoption. C'est lui qui appartient à l'adoption. En Exode, alors s'il ne s'agit pas de la même adoption qu'il a fait de nous des enfants de Dieu, mais c'est en ce qui concerne la nation surtout, et pas l'individu. Exode chapitre 4. Donc on est avec Moïse qui doit parler à Pharaon pour faire sortir les enfants d'Égypte. Versets 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le pharaon à l'époque était considéré par ses concitoyens comme le fils du dieu Ré. Il est quelque divin quelque part. Et l'Éternel donne à Israël le même statut que Pharaon. Si Pharaon était le fils de Ré, Israël est les fils de Dieu. Et même supérieur à Pharaon, parce que Pharaon était une multitude de fils parmi les centaines qui l'avaient précédé et tous qui le suivront. Je crois qu'on a vu quelque part qu'on avait compté qu'il y avait 300 pharaons qui ont régné sur l'Égypte. Mais Israël est le fils aîné. Le fils aîné. Le premier-né. Et puis l'Éternel fait comprendre à Pharaon qu'il aime Israël comme Pharaon aime son propre fils à lui. Et ça n'a rien à voir, la relation entre Israël et l'Éternel, de la relation qu'il pouvait y avoir entre Pharaon et le Dieu Ré. Rien à voir. Et Pharaon peut trembler, donc, et doit s'humilier. L'adoption, la gloire. Deutéronome chapitre 4, versets 32 et 34. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, et donc Moïse parle au peuple de la part de Dieu. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il jamais eu un si grand événement? A-t-on jamais, oui, semblable chose, fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant au milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation au milieu d'une nation par des preuves, des signes, des miracles et les combats à main forte et à bras et entendus avec des prodiges et terreurs comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Et la Shekinah représentait la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Les alliances, on peut passer à l'alliance avec Abraham, Genèse 17, l'alliance au Mont Sinaï, et chaque fois que cette alliance a été renouvelée, que le peuple s'est réengagé de nouveau, chaque génération devait s'approprier de cette alliance. Quel autre peuple peut se prévaloir d'avoir fait une alliance personnelle avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? Personne, aucun autre peuple. et la loi, chapitre 4, versets 5 à 8. L'Éternel dit, voici, je vous ai enseigné des lois, des ordonnances, comme l'Éternel, par Moïse, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est dédiée aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous ai présentée aujourd'hui, la loi? Le culte, c'est le service. Et Israël avait seul le privilège de pouvoir servir celui qui n'a besoin de rien. L'Éternel Dieu n'a besoin d'aucun service qu'on pourrait lui rendre, où il me serait redevable de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, Israël pouvait le servir. C'est le seul peuple, en tant que peuple, à offrir des sacrifices qui soient d'une odeur agréable à l'Éternel. Le culte, les promesses. J'en ai choisi deux pour nous. À moi, c'est une. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Deux Chroniques 7, 14, la réponse de Dieu à la prière de Salomon. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main, tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 49, 14, celle de belles promesses qu'a reçues ce peuple d'Israël, et il y en a tant d'autres. Et puis il termine avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà une première raison d'aimer le peuple juif, c'est un peuple qui est béni de Dieu. Et une deuxième raison qui motive l'apôtre Paul, c'est que Jésus est juif. Alors, vous le savez, il est inscrit dans la généalogie juive. Matthieu le présente comme un juif, un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus est inscrit dans la généalogie juive. Il est le roi des juifs également. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages de Troyen arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Où pouvait-il être ailleurs qu'à Jérusalem ? Car nous n'avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Tout Jérusalem avait lui, il assembla les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, et ils dirent à Bethléem en Judée. Jésus est roi des Juifs, il est juif lui-même. Jésus s'est consacré à son peuple, il est venu pour les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 11. Et il a bien précisé, Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est la réponse qu'il donne à la femme cananéenne qui le sollicite. Alors, pourquoi les chrétiens, et je me mets dedans, oublions-nous si facilement que Jésus est juif? Et dans l'histoire, depuis les temps Moyen-Âge, etc., c'est quelque chose qui était un petit peu oublié, on peut dire. Je ne sais pas pourquoi. Je vous fais une proposition. Le salut vient des Juifs, a annoncé Jésus, a enseigné Jésus. Mais le Saint-Esprit a décidé que le nom de naissance du Messie, Yeshua, serait transcrit pour s'adapter à chaque langue locale. Et le Nouveau Testament donne l'exemple en l'appelant non pas Yeshua, mais Jésus. Chaque peuple doit pouvoir lui parler dans sa propre langue et l'écouter dans sa propre langue. D'ailleurs, Jésus s'exprimait en araméen, il s'exprimait pas en hébreu, il s'exprimait dans la langue courante de son temps. Alors, on dit Jesus en anglais, on dit Jesús en espagnol, en arabe c'est Eïssa, Jésus en polonais, Yesu en chinois, Jesús en russe. Le souverain de toute la terre accepte d'avoir son nom propre tordu, afin d'être le roi de tous et de chacun. Aimer les Juifs parce que Jésus est juif et on ne doit pas l'oublier. Aimer ce qui n'est pas aimable. Alors là, les Israélites au 1er siècle sont très très nombreux dans l'Empire romain. Bon, j'ai fouillé pour chercher et trouver des chiffres, mais il n'y a pas bien sûr de chiffres très précis. L'Empire romain devait compter une cinquantaine de millions d'habitants, c'était pas énorme hein, quand on regarde cette grande surface qui était occupée. Et le peuple juif était estimé à plusieurs millions d'individus, hein, rien que Jérusalem est tombée en 70, il y a eu là environ 1 million de juifs qui sont décédés. Donc il devait être du temps où l'apôtre Paul écrit plusieurs millions sur les 50 que composait l'Empire romain de l'époque. Le défi d'aimer ce qui n'est pas aimable, on ne peut pas, quand on lit les évangiles, quand on lit les paroles de Jésus, on a l'image d'une élite juive qui est hypocrite, intéressée par l'argent, manipulatrice, et Jésus a des paroles très dures, les fameux malédictions, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Et il répète cela à plusieurs reprises. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et dans l'évangile de Luc, il viendra sur toi des jours, Jérusalem, où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les disciples de Yeshua, Amashia, vont être persécutés, haïs et mis à mort par leurs concitoyens. Et Paul témoigne, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé. Aux Thessaloniciens, il écrit, vous frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'on les a souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Mais Paul écrit cependant, oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. Le défi d'aimer ce qui n'est pas aimable. Le défi d'aimer les nôtres aussi, peut-être que je crois que nous renvoie à nous-mêmes. L'endurcissement des Juifs devant leur Messie ressemble un petit peu à l'endurcissement de Pharaon. Et cet endurcissement de Pharaon ressemble aussi à l'endurcissement du cœur humain en général, et donc à notre propre cœur. L'amour de Dieu nous fait aimer le peuple juif, et c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans la contradiction d'aimer le peuple juif et de ne pas aimer notre propre peuple, notre propre famille. Notre société n'est pas gentille envers nous et envers nos valeurs en ce moment. Taisez-vous, nous dit-on. On ne veut rien entendre de votre Dieu. On fait ce que l'on veut après tout. Peut-être dans nos familles également, on n'est pas gentil envers vous à cause de votre foi. Tais-toi, ne nous parle plus de religion maintenant. Dieu nous demande d'aimer nos proches qui ne sont pas aimables. Et si on ne le fait pas, si on n'aime pas nos proches, notre famille, les gens qui nous entourent, qui le fera? Qui le fera? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je le dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes compatriotes, les Israélites. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul, l'exemple de l'amour qu'il manifeste, l'amour de ceux qui le haïssent. Seigneur, ce sont bien tout petits, au milieu de toutes nos difficultés. Merci pour le peuple d'Israël, merci pour lui avoir fait toutes ses promesses, merci pour parce qu'il a été le creuset que tu avais préparé pour que le Messie soit envoyé dans le monde. Et nous voulons nous incliner devant ce que, comme Paul a dit, l'Évangile est pour les Juifs premièrement et ensuite pour les païens. Merci Seigneur pour ta souveraineté en toutes choses. Merci parce que sans eux, nous serions encore dans nos péchés. Merci pour ce peuple, pour Abraham qui a eu la foi et pour ses promesses que ses descendants ont gardées comme tellement précieuses. Et merci parce qu'un jour tu as accompli la plus grande des promesses d'envoyer ton fils. Ni d'une femme, ni sous de la loi, pour nous sauver, nous qui étions loin de toi et qui ne connaissions rien à rien. Merci de faire développer cet amour dans notre cœur, cet amour qui vient de toi, cet amour que le Saint-Esprit répand pour le peuple juif et pas seulement. Merci Seigneur de nous redonner le courage et la patience et l'affection pour tous ceux qui nous entourent, de nos familles proches ou lointaines qui ne te connaissent pas. Seigneur, donne-nous l'amour que Paul avait envers ses compatriotes. Dans le nom de Jésus. Amen.